stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission L'écho des jeunes. Je suis avec Virginie.
Bonjour.
Je suis avec Antoine.
Bonjour.
Et je suis avec Antoine.
Bonjour.
Et donc pour cette dernière émission, un petit peu de la saison 2022-2023, forcément on a un thème qui est très facile, qui vient tout seul, c'est l'été.
L'été. Voilà. L'été, le soleil, la plage.
Comme le veut la tradition finalement.
Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait tous et toutes des recommandations pour vous cet été. On a appelé ça les recos de l'été.
Mais qu'est-ce qu'on fait cet été?
En fait, on n'a rien inventé, on fait comme l'année dernière.
Oui, mais c'était très bien l'année
dernière.
C'était
sympa, c'est ce qu'on appelle une tradition. On renouvelle.
Alors en fait, on a plusieurs thèmes pour cette émission. On va vous parler de films, de jeux vidéo, de séries, d'événements sportifs, de musique. Bref, de tout ce qu'on peut vous recommander à faire, à voir, à vivre, à sentir cet été.
Oui.
Oui,
tout à fait.
Alors, qui commence? Antoine?
Bien, ça va être sportif car... Je vais d'abord vous souhaiter le bonjour à tous, jeunes et jeunes de l'écho des jeunes, et auditeurs jeunes et vieux. En préparant cette chronique, j'ai longuement réfléchi, de quoi allais-je bien vous parler? Qu'est-ce qu'on fait durant l'été? J'aurais pu vous présenter un album, mais j'ai décidé de sortir de cet exercice aujourd'hui et de vous parler de la marche. La marche, qu'est-ce que c'est? Eh bien finalement, ce n'est pas si facile que ça à définir. Peut-être pourrions-nous dire que c'est une activité qui consiste à bouger ses jambes, mais il y a la marche sportive, la marche quotidienne, et ce que je pourrais appeler la marche raisonnable, parce que tout de même, soyons raisonnables, n'utilisons pas notre voiture de notre chambre à nos toilettes. Il y a quelque chose d'assez beau dans la marche, c'est qu'elle a premièrement été essentielle à notre monde, à notre mode de vie nomade qui commence il y a environ 2 millions d'années et qu'elle est au début de tout. C'est en se relevant qu'on a pu développer notre boîte crânienne et notre cerveau et obtenir la faculté de créer des objets techniques et d'évoluer. Notre marche vers la civilisation, l'histoire et le grand malheur d'être aussi intelligent qu'un homme part de la marche. Puis, on a quand même marché longtemps, hein. On s'est sédentarisé environ 9000 avant Jésus-Christ en Mésopotamie, né ses premières traces d'installation, d'agriculture, de pierre polie, d'architecture. Un petit quiz, qu'est-ce que c'est comme période historique? Le néolithique.
Néolithique, ouais, évidemment, évidemment.
Mais bon, il s'agissait encore de bouger ses pattes pour aller chasser ou commercer avec le voisin. On dit qu'au néolithique, il commerçait dans une zone de 7 km. Ce qui a fait mal à la marche, c'est la voiture. Ce qui a fait mal aux écolos aussi, hein, c'est la voiture.
À la planète.
Ouais. Le piéton ne rivalise plus. Il essaye d'affronter une voiture en vitesse ou même de se battre avec, mais rien à faire. Elle est plus forte, elle renverse le marcheur. Popularisé au XXe siècle, ce petit engin qui aujourd'hui met plus de temps qu'un marcheur du 11e au 16e arrondissement, car en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis trop de voitures sur une seule route. Mais dites-vous qu'au début, c'était fait pour aller plus vite qu'un mec qui marche dans Paris et qu'on a une révolution totale de la façon de vivre chez les Occidentaux. On vit désormais vite, on peut se déplacer loin, la marche devient de plus en plus un loisir, elle perd le statut de moyen de déplacement principal de l'homme qu'elle a eu durant 2 millions d'années. Aujourd'hui, la marche perd, on n'a plus le temps. Ou alors nos écrans nous le bouffent ce temps. Comment sommes-nous passés en 100 ans à des journées assis à la campagne sur une chaise, à contempler le vide une fois la moisson finie? On était peut-être bien fatigués, mais on ne pouvait pas fuir ces moments face à nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vulgairement, l'ennui. Certains, plus aisés, avaient le droit à des sorties au musée, mais la semaine, pour la majorité des Français, c'était les chants du lundi au samedi, et le dimanche à l'église parce qu'il fallait croire en quelque chose face à cette vie qui était en train de sombrer dans le manque de sens et qui arrivait dans le capitalisme de masse qui a posé l'homme sur une route. Mais l'homme, lui, ne sait même pas où il va. Notre société ne marche plus dans un sens. Il faut produire, il faut gagner, mais c'est tout. On ne sait même pas pourquoi. L'humain perd tout but de civilisation. Avant, il marchait tout droit vers la vie et la gloire. Maintenant, il marche vers l'incompréhensible. Alors, on fuit ce manque de sens angoissant en gaspillant notre temps à nous dire « je n'ai pas le temps ». Mais enfin, soyez raisonnable, car il s'agit de ça aujourd'hui, c'est de se rappeler que l'homme a une raison. Alors, à part si vous êtes en période d'examen ou que vous êtes un homme d'affaires américain qui court après le temps, car le temps, c'est de l'argent, eh bien, allez marcher. Face à cette décadence totale du mode de vie de l'homme, de l'accroissement de son malheur alors qu'il n'a jamais eu autant, la solution se trouve peut-être dans la plus primitive des activités pour Sapiens Sapiens, la marche. Marcher, c'est laisser son corps absent de toute chose externe, rentrer dans un mouvement mécanique et se reconnecter avec soi-même. contempler la nature qui nous entoure, oublier le temps et parfois toucher une forme d'éternité devant un paysage là pour nous récompenser. Se reconnecter avec l'élémentaire, boire quand on le mérite et sentir comme c'est bon l'eau, faire un feu et cuire du bon soja pour les écolos ou une viande pour les plus vieux d'entre nous, c'est laisser tout problème au bord de la route pour accueillir les pensées et les contempler sans forcément les écrire, comprendre ce que notre environnement nous apporte ou même oublier de penser, oublier que nous sommes des hommes dans une nature qui n'a pas voulu nous offrir de but et se comporter comme un automate, marcher frénétiquement pour extérioriser tout et faire le vide. Alors, je vous invite cet été à marcher vers l'inconnu pour trouver du nouveau. Je vous partage l'une de mes expériences préférées, éteindre ce satané téléphone et marcher le plus possible, courir si on en a le besoin et se demander dans une forme de prétention, est-ce que celui qui est passé avant moi l'avait trouvé aussi belle cette fleur ? Donc cet été, ce sera la marche comme échappatoire, comme raison de vivre pour moi, mais également, il faut le préciser, comme maintien d'une certaine santé, car la marche n'a rien de mauvais, et rassurez-vous, elle a moins de chances de vous tuer que la voiture dans laquelle vous êtes peut-être en train de nous écouter.
Bravo Antoine, une ode à la marche.
Il faut en profiter parce que c'est l'été, c'est pour ça. Fait beau.
Exactement.
Mais on n'oublie pas la crème solaire. J'allais et de s'hydrater aussi parce qu'il fait quand même très chaud. À cause de la voiture notamment.
Alors, ça c'est bien s'il fait beau, c'est ce qu'on vient de se dire.
C'est vrai.
Et quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'été, on est en vacances. Alors moi j'ai un petit livre à vous proposer. Vous en avez, vous, des recommandations bouquins ou pas?
Oui.
Alors moi j'en ai un. Alors, il date un tout petit peu, mais pas tant que ça, de 2018. Peut-être que nos auditeurs le connaissent.
Je pensais que tu allais me sortir un livre des années 20 en Allemagne.
Non, c'est un livre de Joël Dicker. Vous connaissez peut-être l'affaire Harry-Kébert. Et bien là, c'est plutôt la disparition de Stéphanie Meller. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous fais un petit résumé. 30 juillet 1994, Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons dans l'état de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers. Le maire de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin des meurtres. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo de jeunes policiers, Jess Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à confondre le meurtrier, solide preuve à l'appui, ce qui leur vaudra les louanges de leur hiérarchie et même une décoration. Mais, 20 ans plus tard, au début de l'été 2014, une journaliste au nom de Stéphanie Meller affirme à Jess qu'il s'est trompé de coupable à l'époque, avant de disparaître à son tour dans des conditions mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Stéphanie Meller ? Qu'a-t-elle découvert ? Et surtout, que s'est-il vraiment passé le soir du 30 juillet 1994 à Orphea ? Je vous propose d'avoir toutes les réponses à ces questions en lisant « La disparition de Stéphanie Meller » de Joël Dicker.
Je pensais que tu allais nous donner la réponse.
Et non. Faut lire le livre.
C'est une double enquête finalement.
Oui. Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres recommandations, films ou livres ?
Oui, bah moi j'ai un livre à vous recommander qui est tout nouveau. C'est un livre qui est sorti cette année, en 2023. C'est donc Laurent Arnaud d'Hérins et Laurent Guélin qui écrivent donc le livre « Les Balkans, carrefour sous influence ». Et en fait, ils répondent à 100 questions sur toute l'histoire des Balkans, globalement sur le XXe siècle, mais remontent même au XIXe siècle et sur des questions actuelles au XXIe siècle. J'ai commencé à le lire, je ne l'ai même pas encore fini parce qu'il est tout récent, je l'ai acheté récemment aussi. Mais c'est super agréable parce que les questions sont très courtes, très factuelles. Et en fait, on connaît tout plein de petits points, de petits éléments sur la vie dans les Balkans. Et en fait, ce livre, il a été écrit un an après le début de la guerre en Ukraine. Parce qu'aussi, aujourd'hui, les Balkans sont touchés par cette question de la guerre en Ukraine et aussi plus globalement, comment on fait pour comprendre toute l'histoire des Balkans, la guerre de Yougoslavie, avant, avec Tito, etc., etc. Il y a tout plein de petites choses, des petites questions toutes bêtes, même des fois des questions qui peuvent ne pas paraître historiques, comme est-ce que l'équipe de Yougoslavie aurait pu gagner l'Euro de foot en 92 ? Ça peut paraître bête, mais c'est très intéressant comme question, il y en a plein comme ça, et c'est 2-3 pages à chaque fois, pas plus, pour chaque question, il y en a 100, et je trouve ça super agréable à lire, donc je vous le recommande vivement.
Et puis je viens de penser que peut-être on peut aller à la médiathèque chercher ces bouquins plutôt que de les acheter, c'est toujours un bon plan.
Il faut mettre de la crème solaire avant d'aller à la médiathèque sous peine
en
de...
En plus, ça fait marcher.
De cramer.
C'est bien, ça fait marcher, c'est bien, c'est bien.
Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a Marguerite. Donc Marguerite, c'est une plateforme en fait de bibliothèque numérique. Et voilà, c'est la médiathèque de Nevers qui met ça en place. Donc vous pouvez y accéder. Il y a effectivement des bouquins, mais il y a aussi du cinéma, de la presse en ligne, des choses pour se former, etc. Ça s'appelle Marguerite.
Oui, c'est des bouquins en ligne.
C'est une plateforme, voilà. Tu crées un compte. Et alors, il faut être abonné à la médiathèque. Mais je crois que c'est gratuit pour les moins de 18. Et en fait, tu crées un compte et tu as accès à toutes sortes de ressources numériques. Alors, je ne sais plus s'il y a des livres, mais il y a la presse, en tout cas.
D'accord. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien.
Non, après, les livres, c'est peut-être mieux d'avoir l'objet. Hein.
Oui, tout de même.
Mm. Oui, c'est plus agréable. Mm. Moi, je trouve ça vraiment agréable de lire un vrai livre concret, d'aller marcher, de se poser à côté d'une fleur où on se demande si quelqu'un d'autre l'a trouvé jolie ou pas, et de lire là, comme ça, plutôt que de lire de façon numérique. Oui.
Et voilà. Est-ce qu'il y a du coup d'autres livres, d'autres films? Et on fera une petite pause musicale.
Alors moi, je veux bien finir avec un petit florilège non exhaustif des films qui sortent cet été, ou qui sont déjà sortis en juin. Ouais. Tout d'abord, il y a Spider-Man Across the Spider-Verse. Est-ce que quelqu'un l'a vu ici? Non. C'est absolument le dernier film Spider-Man, il est en animation.
Et tu l'as vu toi?
Je l'ai vu tout à fait au cinéma, il est génial, il est coloré, c'est des vrais créateurs et artistes passionnés qui ont fait ce film et qui ont laissé déborder leur pinceau de couleurs et leur imagination, l'histoire est géniale, tout ça. Bref, un film vraiment bien, une valeur sûre, très très cool, génial. Spider-Man Across the Spider-Verse qui est déjà disponible au cinéma. Sinon j'ai noté aussi un film que je n'ai pas vu pour le coup mais que je prévois d'aller voir qui s'appelle Élémentaire. Qui est de Pixar. Pixar, c'est une valeur sûre. Donc,
toujours
voilà, aussi. Ouais. Un petit Pixar sympathique, qui est déjà disponible aussi. Et le dernier film disponible de cette liste, c'est Indiana Jones, qui est sorti il y a peu de temps. Et donc, Indiana Jones, c'est aussi un bon plan pour tous les quarantenaires qui auraient grandi avec ce genre de film.
Ou 50.
50, 60.
Non, mais c'est vrai que c'est de la valeur sûre.
Oui. Voilà. Sinon, j'ai noté également Astérix Obélix Mission Cléopâtre qui revient en remaster 4K au cinéma, qui est déjà sorti. Valeur sûre également, mais cette fois-ci, une valeur sûre complètement assurée, puisqu'on l'a déjà vu. Mais là, on prendra grand plaisir à voir.
C'est quoi le principe?
Alors, le pitch, c'est en gros le film Astérix Obélix de Alain Chabat, qui était sorti en 2002. Et dans lequel il y a Gérard Depardieu, Jamel Debbouze.
C'est juste, ils le mettent en 4K.
Tout à fait, ils ont repris le même film, ils l'ont mis en 4K, et il y a des scènes bonus et des scènes coupées. Et c'est de retour au cinéma, sur grand écran, avec un bon son.
Ils avaient besoin d'argent, quoi. Entre nous.
Bon. Mais c'est toujours un plaisir d'aller voir.
Notamment, je suis tombé sur un extrait d'une scène coupée du monologue d'Otis, où il dit en fait bien plus de choses que ce qui était gardé au montage, et c'était assez rigolo de voir. Je sais pas si du coup sur la version.
C'est sur la version,
sur la version au cinéma.
Sur la version cinéma.
Bah, du coup, je vous invite à aller le voir parce que c'est vachement sympa.
C'est une pépite pour les fans. Il y a aussi Mission Impossible qui sort le 12 juillet. J'ai pas le titre complet, mais c'est un nouveau Mission Impossible. C'est comme Indiana Jones, c'est une valeur sûre.
De toute façon, après, on sait tout le temps qu'à la fin, la mission n'est pas impossible. Quoi.
Ouais.
C'est de la pub mensongère en fait. Et on a enfin un film qui va beaucoup plaire à toutes les personnes autour de cette table, Barbie, qui sort le 19 juillet.
Ouais.
En live action. Je crois que c'est un film qui se prend pas trop la tête et qui est surtout très second degré. Donc je me dis pourquoi pas.
Ça se tente.
Ça prend sa place pour le 19 juillet pour ma part.
Eh bien, je vous propose une petite pause parce que c'est l'été. Oui. Et j'ai un petit morceau à vous recommander qui me renvoie à une sorte de conception de l'été qu'on n'a pas trop évoqué encore, le fait aussi de faire la fête, de profiter du soleil et de la nuit aussi qui est encore chaude, où on peut sortir, aller faire la fête, voir les copains dehors jusqu'à très tard, mais toujours en profitant et sans faire de bêtises évidemment.
Avec modération.
Sans casser de vitrine.
Voilà, exactement. Et cette idée, elle est dans un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Summer Nights de Siamès et je vous propose de l'écouter tout de suite. C'était Summer Night de Siamès, parce que évidemment on parle d'été dans l'écho des jeunes. Et donc je vous propose d'enchaîner sur le reste de tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Ce serait peut-être à notre cher Antoine de nous faire sa petite reco.
Alors tout à fait, moi je voulais vous parler aujourd'hui du coup des recos de jeux vidéo. Alors j'ai beaucoup réfléchi.
Comme par hasard.
Je me suis dit que j'allais pas vous reparler de Zelda puisqu'on en a déjà parlé dans la dernière émission.
Oui. Et qu'on se répète quand même beaucoup à l'écho des jeunes.
Et que je n'ai toujours pas fini tellement ce jeu est incroyable, donc allez y jouer.
Après combien d'heures de jeu ?
Après un peu plus de 120 heures, je crois.
Ah d'accord.
Donc c'est quand même un très très bon
jeu. Faut que les personnes qui jouent pas aux jeux vidéo se rendent compte de l'investissement que ça demande.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça demande
mais on peut y jouer pas beaucoup d'heures. Bref, on n'est pas là pour parler de Zelda, même si c'est un excellent jeu. Je voulais vous parler des jeux qui allaient sortir cet été. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des jeux qui sortaient sur PlayStation, Xbox ou PC étaient des jeux déjà sortis sur d'autres plateformes. Et il n'y a pas vraiment de grosses exclusivités qui sortent cet été. À part une exclusivité, Nintendo Switch, de Nintendo, puisque c'est les boss. Et alors le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est un jeu évoqué pour la première fois en 2015 et qui avait été qualifié de presque terminé à cette époque et qui sort en 2023, ce 21 juillet, Pikmin 4. Pikmin, c'est une des plus grandes licences de Nintendo aux côtés de Mario, Zelda, Kirby, du moins ça l'était, puisqu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez Pikmin ?
Absolument pas.
Non, alors que c'est une des plus grosses licences de Nintendo. Eh bien, justement, Pikmin, ça n'évoque plus grand-chose pour le grand public aujourd'hui, et cela s'explique par plusieurs facteurs, et je vous propose de revenir sur cette licence légendaire.
D'accord.
L'histoire des Pikmin commence en 2001, lorsque le célèbre créateur de jeux vidéo, le papa de Nintendo, Shigeru Miyamoto et son équipe ont décidé de créer une nouvelle expérience de jeu unique. Avec une idée originale et une passion pour la nature, ils ont donné vie à une petite race de créatures végétales appelée...
Pikmin.
Pikmin. L'action se déroule dans l'espace et l'ambiance y est singulière et unique. Le premier opus sobrement intitulé
Pikmin
a été lancé sur la Nintendo GameCube en octobre 2001. Les joueurs y incarnent le capitaine Olimar, un astronaute dont le vaisseau s'écrase sur une planète étrange. C'est là qu'il découvre les Pikmin, de petites créatures utiles et obéissantes. Olimar se lie d'amitié avec elles et les utilise pour explorer la planète, résoudre des énigmes et affronter des ennemis redoutables. Pikmin a rapidement captivé les joueurs avec son mélange unique de stratégie, de gestion des ressources et d'exploration, mais également par son atmosphère. Les Pikmin de différentes couleurs possèdent des capacités spéciales et doivent être utilisées avec soin pour surmonter les obstacles et accomplir les missions. Le jeu a reçu un accueil très favorable de la part des critiques et a gagné le cœur des fans avec son charme et son gameplay innovant. Moi, ce qui me marque le plus dans cet univers, en plus de son gameplay inventif et innovant, Made in Nintendo, comme on l'aime, c'est ses musiques et son aspect flottant, qui crée une atmosphère étrange. On s'y sent à la fois bien et mal à l'aise, heureux et triste, ce jeu nous plonge dans une mélancolie dans laquelle on se plaît. Avec ce fort succès du premier volet, Nintendo a sorti Pikmin 2 en 2004, toujours sur GameCube. Dans cette suite, Olimar est de retour, accompagné cette fois-ci par un nouveau personnage nommé Louis. Ensemble, ils partent à la recherche de trésors pour rembourser une dette de leur entreprise. Pikmin 2 a introduit de nouvelles mécaniques de jeu, notamment la possibilité de contrôler les deux personnages simultanément, ajoutant ainsi une dimension stratégique supplémentaire. Après une longue attente, les fans ont eu droit à Pikmin
3
en 2013.
Ils sont bons ces japonais.
Ouais.
C'est intuitif, c'est bien fait comme ça.
Exclusivement sur Wii U. Ce nouvel opus a introduit de nouveaux personnages tels que Alf, Brittany, ou encore Charlie, qui explore une planète à la recherche de nourriture pour sauver leur propre monde. Pikmin 4 a marqué le retour triomphal de la série avec des graphismes améliorés, de nouveaux types de Pikmin et des énigmes encore plus complexes. 2 ans plus tard, Shigeru Miyamoto déclare que Pikmin 4 est en cours de développement et presque terminé. Et puis, en 2021, Nintendo sort Pikmin Bloom, un spin-off de la série sur smartphone à la sauce Pokémon Go en réalité augmentée. C'est un épisode anecdotique qui ne trouvera pas forcément son public.
Il n'y a pas un nouveau personnage ?
Et non, il n'y a pas vraiment la nouveauté, surtout dans le gameplay.
Même pas Léon ?
Léon Bloom, bien sûr. Ouais. Non, il n'est pas dedans. mais voilà, c'est pas un épisode très marquant pour la série et peu de gens aujourd'hui y jouent encore. Et enfin, le 8 février 2023, lors d'un Nintendo Direct de début d'année, conférence durant laquelle Nintendo annonce ses futurs jeux, Pikmin 4 est officiellement annoncé avec un trailer attisant la curiosité des joueurs intrigués comme des fans absolus. Le jeu comporte de nombreuses nouveautés telles qu'un nouveau compagnon, un chien galactique nommé Ochin, de nouveaux modes de jeu, de nouveaux Pikmin et donc de nouveaux éléments de gameplay. Et la possibilité de personnaliser son personnage. puisque l'objectif de ce jeu sera de retrouver Olimar, qui s'est une nouvelle fois échoué sur une planète peuplée de Pikmin, mais qui cette fois-ci n'est pas le personnage principal. Ce jeu promet de bons moments, mais pourquoi cette licence, aussi vieille soit-elle, n'est-elle pas plus connue et reconnue aujourd'hui? Je vous pose la question.
Pourquoi?
Eh bien, selon mon expertise, trois raisons principales l'expliquent. Tout d'abord, et malgré sa singularité, l'atmosphère de Pikmin et son univers ne sont pas si accessibles que ça. Comparé à un Mario joyeux auquel on s'identifie facilement, ici la joie laisse place à une mélancolie indescriptible et un gameplay stratégique qui n'est pas le genre le plus apprécié des joueurs novices. Ensuite, la rareté des sorties de ces jeux. En 22 ans, seuls 5 jeux sont sortis, dont un spin-off, et 9 ans d'attente entre le 2 et le 3, et 10 ans entre le 3 et le 4. Malheureusement, ce temps délaisse les joueurs ponctuels et les jeunes joueurs, et ne reste que les fans de la première heure, aujourd'hui trentenaires.
Tu veux dire que les Pikmin mettent plus de temps à sortir que le skatepark de Nevers à être rénové?
Tout à fait.
Ah oui, quand même. Okay.
Je vois que tu dénonces. À titre de comparaison, le dernier Zelda a mis 4 ans et on a vu l'attente, et là, 10 ans entre le 3 et le 4. Et enfin, et je finirai là-dessus, cette série n'a pas de chance. Ces deux premiers jeux sortent sur GameCube. Bien qu'aujourd'hui la console soit encensée a posteriori pour tous ces magnifiques jeux, ce n'était pas le cas à l'époque. La console s'est mal vendue et a été beaucoup critiquée. Son troisième opus sort sur Wii U, le plus gros échec de Nintendo, victime d'une communication mal gérée, rendant les joueurs confus, ne comprenant pas la différence avec la Wii, console à grand succès qui l'a précédée. La Wii U se vendra très très mal malgré ses jeux grandioses, et j'ose le dire, et Pikmin 4 passera un peu sous les radars, tout comme Pikmin Bloom, qui pour le coup n'est pas un très bon jeu. Pourtant, en 2017, Nintendo sort la Nintendo Switch. Et le succès est massif. Les ventes sont explosives et battent tous les records, faisant d'elle la troisième console la plus vendue de l'histoire à ce jour. Notamment grâce à ses nombreuses fonctionnalités, pouvant passer du portable au salon, etc. Ainsi, Nintendo sort un remake de Pikmin 3 avec des graphismes améliorés en octobre 2020, qui se vendra déjà plus que le nombre total de Wii U vendus. Dites-vous bien, et deviendra le jeu Pikmin le plus vendu de l'histoire de la licence, alors qu'il s'agit d'une réédition et que la hype y est beaucoup moins présente que dans les années 2000 à la sortie des premiers jeux. Cette console peut sauver Pikmin, comme beaucoup d'autres licences d'ailleurs. Alors, comme pour toutes les licences sortant sur la console, celle-ci est l'occasion de se refaire une santé. Pikmin 4, c'est la grosse exclusivité Nintendo de cette année, aux côtés notamment de Zelda Tears of the Kingdom et de Super Mario Wonder, récemment annoncé. D'ailleurs, à l'occasion, il est possible de télécharger Pikmin 1 et 2 sur le Nintendo eShop avant de démarrer l'aventure Pikmin 4, et pour se mettre à jour si on ne les a pas connus. Ces jeux auront d'ailleurs une version boîte qui sortira en septembre. Bref, Pikmin 4, c'est l'espoir de voir la licence Pikmin renaître et revenir sur le devant de la scène. Désormais, tous les jeux de la licence Pikmin sont disponibles sur Nintendo Switch, donc pas d'excuses. Pikmin 4, ça sort le 21 juillet, et ça vaut vraiment le coup, donc foncez. Et pour avoir encore moins d'excuses, une démo est déjà disponible, vous permettant de jouer aux premières heures de jeu de l'histoire, et de vous faire un premier avis avant de partir en mission pour de bon.
Wow. On vous propose une pause musicale pour souffler un peu. The Interrupters, Take Back the Power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and I'm in boots? Then silence you. What you gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every bit of sweat you've been today? We don't need to run and hide.
caught has been a jerk, and the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. We don't need to run and hide. We won't be pushed off to the side. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to get back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a
À nouveau, bienvenue dans l'écho des jeunes sur BAC FM. Ouais. Nous sommes dans l'émission du mois de juillet avec les recommandations de l'été avec Antoine, Antoine, Hippolyte et moi, Virginie. Alors, on va terminer l'émission avec les événements sportifs. Hippolyte nous a concocté un petit florilège des événements sportifs, j'ai cru comprendre, plutôt de femmes sportives.
Oui, parce que cet été, en sport, on peut penser que c'est un peu l'été des femmes. Alors, habituellement, l'été, on est habitué des fois à voir la Coupe du Monde. Alors, cette année, on l'a eu en hiver. C'est l'année précédente maintenant. Il n'y a pas de Jeux Olympiques, il n'y a pas d'Euro de football ou quoi que ce soit. De grands événements sportifs masculins qui peuvent prendre la place, si ce n'est le Tour de France, c'est cette éternelle sieste avec le bruit d'hélico et la voix d'Alexandre Pasteur en fond sur France 3. Mais finalement, en dehors du Tour de France, que les garçons ont l'habitude de concourir, il y a aussi les femmes qui vont courir un Tour de France juste après les hommes. Mais il y a tout plein d'autres compétitions. Alors, les fans de basket auront peut-être entendu parler de l'Euro de basket féminin qui s'est joué, où malheureusement la France n'a eu que la 3e place, à la déception de beaucoup de joueuses. Mais surtout, il y a la Coupe du Monde de football pour les femmes, oui, qui en plus, sera, beaucoup de matchs seront diffusés sur France Télévisions, donc accessibles en clair pour à peu près tout le monde qui est en poste de télévision. Et les Françaises ont une chance de faire un petit résultat. Alors, a priori, elles ne seront pas championnes du monde. C'est les Américaines, les Norvégiennes, par exemple, qui sont les grandes favorites.
On verra. C'est pas joué.
On croise les doigts pour l'équipe de France, qui a connu une longue période de crise cette année, avec notamment des soucis avec leur coach. Mais il y a eu un changement de coach et le nouvel entraîneur satisfait les joueuses. Et toutes les joueuses sont à peu près prêtes pour ce mondial. On espère que, du coup, tout ce drama dans l'équipe de France leur permettra de faire une belle performance.
Et bien, allez les Bleus, eux.
Oui. Exactement. Allez les femmes. Oui, allez les Bleus, eux. Malheureusement, à l'oral, on ne fait pas de différence avec les hommes, mais c'est plutôt neutre, c'est pas trop mal.
Les Bleuses.
Les Bleus, c'est très bien. Ouais.
Et puis en septembre, on aura le droit à la Coupe du Monde de rugby aussi.
Ouais, mais ça, ce sera les garçons.
Ouais, ça sera encore en été, hein, reco de l'été.
Mais ça se finira en octobre, donc oui, on fera une reco de l'automne pour le rugby. Allez.
Allez les Bleus, pas eux, du coup.
Voilà. Mais aussi, du coup, moi, j'avais surtout envie de vous parler quand même du Tour de France féminin, parce que l'été, pour moi, c'est quand même vachement. Ouais, c'est étonnant de ma part de parler de vélo. Ça fait un moment que j'en avais pas parlé sur ma chaîne, quand même. Je me suis retenu. Non, et j'avais envie de changer un peu, parce que l'été dernier, il y a eu quelque chose quand même de tout nouveau, c'était le Tour de France féminin. Jusqu'en 2022, il n'y en avait pas eu, ou du moins depuis très longtemps. Et donc là, elles sont revenues avec une course d'une semaine, ce qui est en fait l'équivalent des plus longues courses possibles chez les femmes. Et toutes les coureuses sont d'ailleurs d'accord pour dire qu'une semaine, c'est le maximum et que c'est très bien pour elles. Forcément, elles ne pouvaient pas faire le Tour de France et couvrir une aussi grande partie de la géographie comme les garçons font souvent. Et elles avaient traversé notamment la région Grand Est, partant de Paris pour aller jusque dans les Vosges, se disputer les dernières étapes de montagne. Et cette année, elles ont un parcours tout à fait différent, où elles prennent la route du Sud. Et là, le parcours va être très très intéressant et j'ai envie de dire assez épicé, très sympathique. Elle part de Clermont-Ferrand, c'est pas loin d'ici finalement, Clermont. C'est 1h30 de train par ailleurs. et elles vont descendre tout le long du sud, elles vont passer par Rodez, elles vont passer par Albi pour arriver dans les Pyrénées, avec notamment le samedi une arrivée au Tourmalet et le lendemain un contre-la-montre dans les rues de Pau. Et en fait, toute cette course-là, elle se fera juste après la course des hommes, parce que bon, souvent on a quand même 3 semaines de course de entre les hommes et entre toutes les attaques entre les Pogacar et les Vingegaard. On aura peut-être une petite nostalgie de cyclisme, mais quand les derniers tours sur les Champs-Élysées pour les hommes se termineront, on aura peut-être envie d'encore plus. Et bien, les femmes nous offrent encore plus. Et déjà l'an dernier, c'était un très très beau spectacle entre la domination d'Annemiek van Vleuten, les Françaises comme Juliette Labousse qui ont fait rêver. Elle a fini 4e du classement général, ou même les belles histoires avec Cécilie Uttrup-Ludwig ou même Marianne Vos. On a eu un très beau spectacle, et cette année on peut espérer encore mieux, avec peut-être une grande bataille pour la victoire finale, avec notamment Demi Vollering qui incarne la nouvelle génération des Hollandaises, qui pourrait battre l'éternelle Annemiek van Vleuten qui est maintenant 39 ans mais qui continue de gagner énormément de compétitions. Et même du coup, côté français, on peut avoir Juliette Labousse ou Evita Muzik qui peuvent faire de belles performances.
Et c'est quelle date ça?
C'est du 23 au 30 juillet. C'est vrai que j'avais oublié de le préciser. Ouais, c'est okay. Juste après. C'est-à-dire qu'elles vont commencer le dimanche, qui sera le même dimanche de la dernière étape du Tour de France masculin. Et ce sera du coup 8 étapes. Donc ça se fera sur 8 journées.
Super, c'est noté.
Si j'ai une petite reco aussi en rapport avec le Tour de France, oui. Moi j'ai vu une vidéo récemment de Hugo Décrypte, oui. Qui parle pour le coup de tout ce qu'il y a autour, un peu avec l'argent, etc., les sponsors, les images à la télé, etc. Et bah, c'est super intéressant, donc ça dure à peu près 20 minutes. Et,
Oui, c'est vrai, c'est très intéressant.
Sur la chaîne d'Hugo Décrypte.
D'Hugo Décrypte, tout à fait.
Ok, et bah, c'était une bien belle émission, les bonnes recommandations de l'été. Moi je vous souhaite à tous un super été. Bel été, Laetitia.
Bel été, Laetitia. Bel été à
Thomas Kiffer. On se retrouve à la rentrée.
Ouais.
Alors, on verra, peut-être sous un autre format. On va en discuter.
Des formats
évolués.
Peut-être avec des nouveaux arrivants, des petits jeunes qu'on va prendre sous nos bras.
Peut-être des, oui, beaucoup de changements.
Sous nos ailes, déjà, ouais, avant que les bras. Mais
Moi, j'ai pas mis de déo. Donc.
Donc, effectivement, ce serait chouette qu'il y ait des nouveaux chroniqueurs, chroniqueuses au micro de l'écho des jeunes.
Si on commence à se faire vieux, ça va bientôt être l'écho des vieux.
À bientôt, à la rentrée.
À bientôt, bonnes vacances.
Bonnes vacances, bon été. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer.